Vous croyez que c'est sérieux, ça?
Me lança-t-elle dès que j'entrais. J'étais auprès d'elle, avec Francette. Édouard s'est fait tuer.
Ah? Quand?
Avant-hier, d'après le maire, un obus.
Ah!
Redit-elle un peu dépitée et en remuant les braises. Mais elle avait trop couvé sa colère pour en rester là, trop ruminé les mauvaises phrases qu'elle me destinait pour ne pas trouver le moyen de cracher son venin.
N'empêche,
Grinça-t-elle.
vous auriez dû me prévenir en partant, et aussi tremper la soupe. Il a fallu que je le fasse, et ça m'a fatigué un peu plus.
Francette est veuve, et vous me parlez de votre soupe?
Et pourquoi pas? C'est bien triste que Francette soit veuve, mais ce n'est pas la première, ni la dernière, ni la seule à qui ça arrive. Et il ne faut pas que ça empêche la maison de tourner. Et la soupe d'être trempée à l'heure. Parce que si vous commencez comme ça,
Quoi, si je commence?
je me comprends. Moi, ma petite, quand j'ai perdu mon mari, j'étais seule. Seule avec ma pauvre mère, veuve elle aussi. Et avec Jean, qui n'avait que 2 ans. Et personne n'est venu nous donner la main. Personne.
Ça ne m'étonne pas. On ne va aider que ceux qui le méritent. Et maintenant, retournez au lit, et vite. Vous ne tenez plus debout et vous allez être encore plus malade que vous ne l'êtes. Et ça me donnera encore plus de travail.
C'est ça. Dites tout de suite que je vous suis une charge.
Parfaitement. Mais moi, je vous soigne quand même. Oh, pas pour vous, pour Jean. Et tenez-vous pour dit que j'irai chez Francette tous les jours et aussi longtemps qu'il le faudra. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Mais portez pas peine, je penserai à tremper votre soupe avant de partir. Elle a rejoint son lit en maugréant que décidément, et comme elle l'avait toujours dit, Jean avait fait le pire des choix en m'épousant. Mais ça, je l'entends si souvent et depuis si longtemps que je comprendrai qu'Octavine est au plus bas lorsqu'elle cessera de le suriner. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Je sais, moi, ce que pense Jean, et ça me suffit. Maintenant, je vais enfin pouvoir dormir, me reposer pendant 5 heures, pas plus, si je ne veux pas que Francette me trouve encore à l'étable quand elle arrivera pour aller prendre avec moi le train de 7h06 à Noailles. Francette qui a vieilli de 20 ans, mais qui maintenant a décidé de lutter, et qui, depuis quelques jours, vient m'aider à faire le bois. Tu sais bien que je n'ai jamais oublié que tu étais venu moissonner chez nous. Alors maintenant que ta belle-mère est au lit, il faut bien que quelqu'un t'aide à tirer le passe-partout, m'a-t-elle dit avec son sourire désormais si poignant. Mais il est bon qu'elle veuille réagir. La preuve, demain pour la première fois depuis le drame, elle va reprendre l'habitude de me suivre comme naguère à Brive pour y vendre ses légumes, ses noix, sa volaille. C'est bien, mais j'ai peur pour elle, car c'est aussi la première fois qu'elle va affronter la ville et ses fidèles clientes dans ses habits de deuil. Je crains pour elle les questions, peut-être les regards aussi, et la gêne, sûrement, qu'elle va susciter. Car je sais à quel point la mort que sa tenue proclame engendre l'embarras chez ceux qui la découvrent et ne savent que dire. Déjà, à Costeblanc, où elle est venue plusieurs fois avec moi, j'ai vu la réaction apeurée, parfois même la frayeur que sa condition de veuve engendre. Alors qu'en sera-t-il demain à Brive? Au milieu des clientes du marché qui la verront soudain, comprendront et, pour beaucoup, préféreront fuir. Fuir cette image de la mort qu'elle incarne et qui terrifie tout le monde. Je redoute pour elle cette nouvelle épreuve, et j'ai même des remords d'avoir beaucoup insisté pour qu'elle me suive, pour qu'elle sorte du bras d'elle et fasse front. Elle a accepté, car maintenant elle veut se battre, lutter. Elle a compris que ses 5 petits ont besoin d'elle et de cette force qu'elle retrouve peu à peu, de jour en jour, et qui les rassure. Mais, ce faisant, elle se durcit à tel point que, sans même s'en rendre compte, sans mesurer ses propos, elle assène de terribles vérités, des évidences qui me bouleversent. Ainsi, voilà 2 jours, m'a-t-elle dit, sans y prendre garde et avec son pauvre sourire, Moi, maintenant, je ne m'inquiète plus. Je n'ai plus besoin de savoir où en est la guerre, ni d'attendre chaque jour des lettres qui ne viendront plus. Je n'ai plus peur. Moi, si, toujours. Et puisque minuit va bientôt sonner, et qu'un nouveau jour commencera, il y aura tout à l'heure 872 jours que Jean est parti, que je l'attends, et que j'ai peur. Peur. Mercredi 20 décembre 1916, tranchée des revenants, 23h50. Malgré la somnolence de plus en plus épaisse dans laquelle il sombrait, Jean perçut un bruit qui n'était pas celui d'une bande de rats en vadrouille, se faufilant sous les chevaux de frise. C'était le grincement furtif de quelques pièces et caissons d'artillerie en déplacement vers Barleu, là-bas, dans les positions allemandes. Qu'est-ce qu'il mijote encore, cela? Pensa-t-il, en se hissant sur la banquette de tir et en jetant un coup d'œil entre deux sacs de sable. Mais la nuit était tellement épaisse et la pluie si dense qu'il ne put rien voir, pas même si le glacis qui séparait les avant-postes était désert. C'est au son qu'il eut confirmation que le bruit provenait d'un peu plus loin. Ouais, il s'agit bien de grincement des cieux, se dit-il. Va savoir ce qu'ils foutent à cette heure, ces salauds. Ils préparent certainement un sale coup pour cette nuit. De quoi nous en mettre plein la gueule. Il faudra que j'en rende compte tout à l'heure au gars de la relève. C'est quoi tout ce bordel-là, juste devant nous? C'est pas des rats cette fois-ci, c'est sûr, entendit-il. Il reconnut la voix angoissée du jeune de la classe 18, comprit que celui-ci avait une fois de plus quitté son poste et qu'il était là, tout proche.
Je t'ai déjà dit de ne pas gueuler si fort. Tu vas finir par nous faire repérer. Et je t'ai dit aussi de ne pas bouger de ta place,
lui reprocha-t-il.
Je reste plus tout seul là-bas, moi.
Prévint Louis Vergne en se glissant à côté de Jean.
Ah non, je reste plus tout seul. Sûr qu'ils sont là, juste devant, à moins de 20 mètres, et qu'ils vont m'attaquer.
Dis pas de conneries. Ils sont toujours à Barleu. Et ce que tu entends, c'est le déplacement de pièces d'artillerie.
Des pièces d'artillerie qui font ce boucan-là, tout à côté? Tu te fous de moi? Je suis certain que les Boches sont là, en train de ramper vers moi, et qu'ils vont m'attaquer. Tiens, écoute.
Écoute, bon Dieu!
Oui, et alors?
Dit Jean après quelques secondes d'attention.
Tu entends aussi bien que moi. Ce sont les moyeux de quelque 77 ou 105 qui sont pleins de boue et qui grincent. Rien d'autre. Et c'est loin. Allez. Va reprendre ta place. La relève va arriver d'une minute à l'autre. File, je te dis.
Non, non, moi je bouge plus d'ici.
Dégage avant que je te botte les fesses. File!
Salaud!
Dit le jeune en reculant un peu.
Mais tu es sûr qu'ils sont loin?
Insista-t-il.
Certain.
Et pourquoi tu expédies pas une fusée éclairante? Comme ça on verrait. Si tu ne le fais pas, moi je le fais.
Ben pardi! T'amuses surtout pas à faire cette connerie, hein?
Et pourquoi? Elles servent bien à éclairer ces fusées, non?
Tu es vraiment un bleu-bite. Tu as tout à apprendre. Tu n'as pas vu tout à l'heure comment ça a déclenché le tir de tout le monde? Alors maintenant qu'on va pouvoir aller roupiller, c'est pas le moment de nous payer un feu d'artifice qui retardera les gars de la relève et prolongera notre garde. Maintenant, va rejoindre ton poste.
J'ai peur. J'en crève.
Je t'ai déjà dit que moi aussi.
On ne le dirait pas.
Ne te fie pas aux apparences, petit. Moi, j'ai peur depuis mon baptême du feu, à Blagny, le 24 août 14. Voilà. Tu es rassuré?
Non, pas du tout. Je suis sûr que les Boches sont là, tout à côté, et qu'ils vont me sauter dessus dès que j'aurai rejoint mon trou. J'ai tellement peur que je n'ai même plus envie de pisser, ni du reste, parce que c'est déjà fait. Même que j'en ai partout.
Tu n'es pas le premier, ni le dernier à qui ça arrive. C'est pas grave, ça. Mais écoute, petit, tu t'es mis dans la tête que les Boches sont là, à 10 mètres. C'est faux. On sait très bien que leur